Le devoir nous appelle. Très bien. Bah, écoutez, je suis avec les collaborateurs du groupe très heureux de vous accueillir pour cette présentation des comptes. D'autant plus heureux que vous le verrez, d'une manière générale, nos comptes sont plutôt de bonne facture. En 2019, Bouygues a atteint ses objectifs annuels grâce à des résultats solides portés par ses trois activités. Tout d'abord, le groupe a amélioré sa profitabilité. Le résultat opérationnel courant est en croissance et la marge opérationnelle courante est en hausse sur un an, retraitée de l'impact de la cession partielle d'actions en 2018. L'année a également été marquée par une génération élevée de cash. À 301 millions d'euros, Bouygues Télécom a atteint son objectif de cash flow libre, vous vous en souvenez, que nous avions fixé en 2017 à 300 millions d'euros. Et le cash flow libre après BFR du groupe, hors dividende d'Alstom, a doublé sur un an à 815 millions d'euros. Enfin, la dette nette s'est fortement réduite à 2,2 milliards d'euros contre 3,6 milliards d'euros l'an passé. Fort de ces résultats, le conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 23 avril 2020 la distribution d'un dividende de 2,60 euros par action, dont 0,90 euros à titre exceptionnel. La trajectoire de cash flow libre après BFR du groupe fin 2019 nous rend confiants dans notre capacité à générer 1 milliard d'euros de cash flow libre en 2020. Regardons maintenant les chiffres clés de l'exercice 2019. Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 37,9 milliards d'euros en hausse de 7% sur un an. Retraité des effets de périmètre et à change constant, il progresse de 5%. Cette performance est portée par tous les métiers. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 112 millions d'euros et de 218 millions d'euros hors impact action. Je vous rappelle que le résultat opérationnel courant de 2018 intégrait une plus-value de 106 millions d'euros liée à la cession partielle d'action. Cette amélioration significative est tirée par les bonnes performances des trois activités. Ainsi, la marge opérationnelle courante du groupe s'établit à 4,4% et progresse de 0,3 point hors action. Le résultat net part du groupe atteint 1,184 milliards d'euros, en recul de 124 millions d'euros sur un an. Cette baisse s'explique par la diminution de 133 millions d'euros du résultat opérationnel sur la période, en raison de produits non courants de 20 millions d'euros en 2019 contre 265 millions d'euros en 2018, principalement chez Bouygues Télécom. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'un des faits marquants de 2019 est la forte amélioration de la génération de cash flow libre du groupe. Nous avons représenté à droite de ce document l'évolution du cash flow libre après BFR du groupe entre 2018 et 2020. Et nous avons isolé la part des dividendes reçus d'Alstom en 2018 et en 2019, respectivement 22 et 341 millions d'euros. Hors dividendes d'Alstom, le cash flow libre après BFR du groupe a doublé par rapport à 2018 pour atteindre 815 millions d'euros. Plusieurs éléments contribuent à cette performance opérationnelle. La croissance de 330 millions d'euros de la capacité d'autofinancement net des trois activités, la stabilité des investissements nets et l'amélioration de la variation du BFR liée à l'activité pour 176 millions d'euros. Ainsi, le groupe est bien positionné pour atteindre son objectif de cash flow libre après BFR de 1 milliard d'euros en 2020. Par ailleurs, Bouygues a renforcé sa structure financière en 2019. Le groupe a significativement réduit son endettement financier net de 3,6 à 2,2 milliards d'euros. Il bénéficie de l'impact positif d'Alstom pour 1,4 milliard d'euros. Ce montant comprend les dividendes que nous avons reçus d'Alstom en juillet 2019, je vous le rappelle, ainsi que le produit de la cession de 13% du capital que nous avons réalisé en septembre dernier. Ainsi, le ratio d'endettement baisse fortement de 14 points à 19%. Enfin, Bouygues dispose d'une trésorerie disponible très élevée, puisqu'il s'agit de 11,6 milliards d'euros, comme vous pouvez le voir sur ce document. Elle se compose de 3,3 milliards d'euros de trésorerie et de 8,3 milliards d'euros de lignes de crédit non utilisées. L'échéancier de remboursement est, vous le voyez, particulièrement bien réparti. Je rappelle enfin que nous avons remboursé en octobre dernier un emprunt obligataire d'un montant de 1 milliard d'euros. Cette structure financière solide nous permet de garantir notre indépendance d'action et bien sûr de garantir la pérennité de notre modèle. Je vais maintenant passer la parole à Olivier Roussat qui va vous faire une revue détaillée des performances de nos activités.
Merci Martin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va démarrer cette revue opérationnelle par les activités de construction et en particulier par le carnet de commandes. Le carnet de commandes qui est stabilisé donc à un très haut niveau à 33 milliards d'euros, stable sur un an. Vous voyez dans la slide qu'on vous a représentée qu'on a deux points hauts dans cette slide, l'année 2018 et l'année 2019. Ça démontre que l'ensemble des solutions que l'on est à même de délivrer à nos clients correspondent à une demande, et une demande qui est très soutenue en raison d'une urbanisation croissante, du changement climatique et le fait que nous soyons capables de délivrer des infrastructures et beaucoup de solutions à faible consommation de carbone. Le carnet de Colas qui est retraité des effets de change puisque nous avons cédé SMAC début 2019, est en forte hausse de 12% sur un an, tiré par l'international. Il intègre des prises de commandes significatives en Guyane, au Royaume-Uni, qu'on verra sur la slide suivante. En France, comme il était attendu, ce carnet de commandes, les commandes se sont légèrement ralenties sur la fin d'année du fait de l'arrivée des élections municipales de mars 2020, qui est une période peu propice aux commandes pour les différents maires. Le carnet de commandes de Bouygues Construction est stable en France, il est en baisse à l'international. On a cependant un grand contrat qu'on peut signaler sur Hong Kong, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, pour 756 millions d'euros. Et puis enfin, on a le carnet de commandes de Bouygues Immobilier, qui est en lien avec la baisse des réservations des logements. Bouygues Immobilier a été pénalisé en 2019 par une faible mise à l'offre, renforcée par le fait que nous avons eu des retards dans l'obtention des permis de construire, qui a donc entraîné là aussi une baisse de mise à l'offre. Globalement, on est pour autant sur un marché qui est extrêmement sain. Les fondamentaux sont bons, la demande est structurellement forte de logements, les taux d'intérêt sont toujours bas et l'ensemble des mesures qui accompagnent l'investissement, sont encore là jusqu'en 2021. Globalement, on a un carnet de commandes qui continue de s'internationaliser puisqu'il arrive à 62% pour Bouygues Construction et Colas réalisé à l'international. Il était de 61% l'année passée. Quelques exemples de projets qui ont été remportés au T4, un tunnel donc à Hong Kong pour un montant d'un peu plus de 750 millions d'euros. C'est la slide sur la partie gauche de la slide. Une cession réalisée par Bouygues Immobilier au T4, l'immeuble Suez à Issy-les-Moulineaux. Et puis les deux exemples que je donnais tout à l'heure pour Colas, à côté, sur la partie gauche, les bus à haut niveau de service, qui est une demande assez forte maintenant dans les différentes communes, qui est réalisée à Cayenne, en Guyane française. Et puis sur la partie droite, des travaux ferroviaires pour Network Rail, pour un montant de 553 millions d'euros. Regardons maintenant les indicateurs clés des activités de construction. On a un résultat opérationnel courant des activités de construction qui s'améliore de 75 millions d'euros hors impact d'Action. C'est une amélioration qui reflète d'une part le redressement de l'activité Bouygues Énergie Service, de la marge opérationnelle de l'activité Bouygues Énergie Service, qui passe de moins 0,4% à 2,1%. Je vous rappelle que c'est un des sujets sur lesquels nous avions eu des problèmes en octobre 2018. Et puis, dans le même temps, au niveau de la construction, on a une marge opérationnelle des activités de bâtiments et travaux publics qui se maintient à un bon niveau, à 3,1%. Deuxièmement, la forte croissance du résultat opérationnel courant de Colas, qui est tiré d'une part par la bonne performance de la route métropole et là aussi par le redressement de Colas Rail, puisque c'est un retour à l'équilibre pour Colas Rail, à nouveau un des sujets qui nous avait créé des petits problèmes fin 2018. On a globalement une marge opérationnelle courante de Colas qui progresse de 0,4 points pour s'établir à 3,2%. Enfin, on a une contribution significative des projets d'immobilier d'entreprise de Bouygues Immobilier sur le T4, puisqu'on a une marge opérationnelle courante qui s'élève à 5,2% au quatrième trimestre, contre 2,6% sur les 9 premiers mois de l'année 2019. Ainsi, on a une marge opérationnelle courante des activités de construction hors Axione qui ressort en légère hausse à 3,1% par rapport, en légère hausse donc par rapport à 2018. Avant de poursuivre sur les autres activités, je voulais revenir sur un sujet que nous avions couvert lors de la présentation des semestriels en août dernier. On vous avait présenté la démarche de décarbonation dans laquelle se sont engagés les trois métiers de la construction. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le large portefeuille d'offres que nous avons dans les solutions bas carbone, puisque c'est un sujet que nous avons abordé depuis maintenant assez longtemps, puisqu'on s'est lancé sur ce sujet à partir de 2005-2006. Donc très tôt, le groupe s'est orienté vers la fourniture de solutions innovantes bas carbone pour les clients. Et en 2019, nous avons continué d'innover pour renforcer notre leadership en matière de construction durable. On vous a donné les différents segments sur lesquels nous intervenons, avec à chaque fois un certain nombre d'exemples de projets ou de solutions que nous fournissons. Par exemple, on pourrait revenir sur le fait que Bouygues Immobilier a livré à Strasbourg la plus haute tour de France en logement 100% bois. Bouygues Immobilier a reçu le label BBCA pour l'opération Enjoy, qui est le plus grand immeuble de bureaux à énergie positive en structure bois en France. Bouygues Construction a démarré quelque chose d'original et favorable à l'économie circulaire. C'est le Office Switch Home à Lyon qui va proposer des bureaux et ce bâtiment sera facilement transformable en logement. On est bien dans les démarches d'économie circulaire. Et puis, dans les exemples que l'on peut citer également, c'est le Wattwepack. On vous avait présenté il y a quelques années l'innovation technique que représentait Wattway. Et bien là, il s'agit d'une solution qui a été proposée au Congrès des maires de France il y a maintenant quelques mois, qui permet à une municipalité d'installer une offre clé en main de prise électrique autonome, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à quelques plaques Wattway, fournir soit un point de recharge pour des véhicules électriques, soit un point pour des services connectés. Tout à l'heure, en fin de présentation, Martin Bouygues reviendra sur la démarche du groupe en 2020, notamment pour accentuer nos efforts dans la réduction de nos propres émissions de gaz à effet de serre. Avant, on parle de solutions innovantes, on voulait vous montrer au travers d'un petit film qui va se lancer maintenant, un projet qui a été réalisé par Bouygues Énergie Services, qui est en fait une ferme solaire flottante. C'est la plus importante d'Europe. C'est une innovation qui a été faite dans le sud de la France, à Piolenc. Je vous invite à regarder cette réalisation.
Je m'appelle Sophie Lesouvry. Je suis ingénieure travaux chez Bouygues Énergie et Services depuis 2 ans et demi à peu près, et chez Bouygues depuis 4 ans. Mon travail consiste à planifier, organiser le chantier, m'assurer que tout se passe bien, en toute sécurité. Salut Jérémy, ça va ?
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais.
Faites attention parce que du coup il y a un peu de gel. Enfin là, vous mettez la 1-1-3 là à l'eau et après tranquille. Petite signature et puis c'est tout bon. On peut y aller. Ici, on est sur le chantier Oméga 1, la première centrale flottante en France et la plus grande d'Europe qui se situe dans la commune de Piolenc. Ce projet est spécifique parce qu'il flotte. Donc, on est sur l'eau, donc sur un nouveau milieu que Bouygues Énergie et Services Photovoltaïques n'avaient pas connu jusqu'alors. Le chantier, il démarre vers 7h30-8h. Le fait déjà de ne pas être sur terre et sur l'eau, c'est ce qui fait toute la technicité du projet. C'est c'est pas forcément facile. L'eau est froide. Quand il y a du vent, c'est encore plus froid. Donc on a des super équipes qui sont très motivées et qui sont très impliquées dans le projet, qui veulent que ça se passe bien. Donc ils nous font également remonter beaucoup de choses que nous, moi, je ne suis pas forcément sur l'eau tout le temps. Donc ça, c'est très important d'avoir une bonne équipe avec une bonne cohésion d'équipe. Ouais.
Ici, Piolenc, c'est un parc qui fait 17 mégawatts crête. Ça représente une surface de 6 terrains de foot à peu près. C'est un parc qui, une fois qu'il sera mis en service, devrait alimenter sur l'année l'équivalent de la ville de Piolenc, soit à peu près 5000 foyers.
Piolenc, nous sommes sur une commune de 5000 habitants. Et dans le développement, nous attachons une grande importance pour tout ce qui est énergie durable et renouvelable. Lorsqu'on a lancé l'élaboration du plan local d'urbanisme, j'avais dit, est-ce qu'on ne pouvait pas créer une zone d'éolienne ? Des capteurs photovoltaïques, pourquoi pas, mais je ne pensais pas à ce qu'il y ait des capteurs sur l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes donc d'un plan d'eau qui était un plan d'eau artificiel comme ceci. On en a fait donc aujourd'hui un plan d'eau comme cela. Tout le monde aime ces initiatives parce qu'aujourd'hui, les Piolensois sont associés au projet. C'est-à-dire qu'on a créé une coopérative AQOCOP où aujourd'hui les Piolensois et Piolensoises peuvent participer au financement.
Techniquement, pour nous, ça a impliqué deux enjeux majeurs. Le premier, il était plutôt organisationnel. C'était d'arriver à faire tenir toutes les personnes qui interviennent sur un parc photovoltaïque de plusieurs hectares d'habitude sur une toute petite zone de montage. Et puis le deuxième, c'est savoir bien s'entourer avec des partenaires dont c'est le métier, parce que nous, sur le photovoltaïque, c'était des métiers qui étaient assez loin de ce qu'on faisait historiquement, notamment les ancrages, les circulations de câbles sur l'eau et tous ces sujets-là. C'est un projet qui nous a été amené il y a un peu plus d'un an par notre client, AQO Energy.
Alors AQO Energy, c'est une société qui développe des projets d'énergie renouvelable. Bouygues Energy Service a su répondre à ce qu'on espérait, apporter des réponses à nos questions. En fait, on est dans un couloir de migration avec 5 espèces qui ont été identifiées pour l'étude d'impact. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu des mesures compensatoires, c'est-à-dire limiter au maximum notre impact pendant la phase de construction et puis un suivi écologique pendant toute la phase d'exploitation.
Je pense que la force de ce projet réside au travers des hommes et des femmes qui s'investissent énormément. Du caractère innovant et nouvelle technologie de ce projet, on a des curiosités de toutes les personnes qui sont là à essayer de trouver des solutions. Donc on a vraiment un groupe qui travaille entièrement à l'élaboration de ce projet.
On apprend tous les jours. Moi j'apprends tous les jours. C'est enrichissant, c'est aussi valorisant. De se dire que voilà, on construit aujourd'hui toute l'équipe, la plus grande centrale flottante de France.
Bien, je vous propose de continuer en passant sur les résultats de TF1 qui ont été présentés par Gilles le 14 février. J'irai donc assez vite. Je vais me concentrer sur les faits marquants. D'une part, une part d'audience de TF1 qui se stabilise à un haut niveau en 2019, puisque nous avons eu pour le groupe TF1 une audience de 32,6% pour les femmes de moins de 50 ans responsables des achats et de 29,4% sur les individus âgés de 25 à 49 ans. C'est une audience qui est stable. La base de comparaison était 2018, qui était une base de comparaison assez élevée, puisque nous avions eu la Coupe du monde masculine qui s'était déroulée en 2018. On a un chiffre d'affaires de l'année qui s'élève à 2,337 milliards, en hausse de 2% par rapport à 2018, porté également par la croissance externe. On a un résultat opérationnel courant à 255 millions d'euros, en progression de 56 millions d'euros sur un an, et une marge opérationnelle courante qui progresse de 2,2 points pour se situer à 10,9, ce qui permet à TF1 d'atteindre son objectif 2019 d'une marge opérationnelle courante à deux chiffres. Cette performance, elle reflète, outre la croissance du chiffre d'affaires, elle reflète également la maîtrise du coût des programmes, puisque les coûts de programme sont passés de 1,14 milliard en 2018 pour s'établir à 985 millions d'euros en 2019. Ces bons résultats donc permettent à TF1 de confirmer ses objectifs pour 2020 et pour 2021. En 2020, l'objectif, c'est de maintenir un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres, et un coût des programmes contenu à 985 millions d'euros en 2021. Citons un des objectifs pour Digital Unify, un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions d'euros et un taux d'EBITDA d'au moins 15%. TF1 s'inscrit ainsi dans une croissance, dans une dynamique de croissance pérenne avec un positionnement d'acteur majeur du marché de la vidéo. Vers le total vidéo, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le métier de TF1, pardon, est en train d'évoluer vers un métier de fournisseur de contenu, quel que soit le support, que ce soit en mode broadcast traditionnel au travers des chaînes ou que ce soit dans la partie digitale. C'est un métier qui évolue parce que ce sont des contenus qui sont consommés de quelques manières différentes, que ce soit en linéaire comme précédemment, que ce soit en replay ou que ce soit en SVOD. Et le groupe TF1 adapte ses offres aux différents modes de consommation afin d'accompagner son public dans l'évolution de ses usages. Le lancement de Salto est prévu pour septembre 2020. Je vous rappelle que Salto, c'est le service de vidéo à la demande par abonnement, fruit d'une co-entreprise entre M6, France Télévisions et TF1. TF1 se prépare également à l'émergence d'un nouveau marché, avec la télévision adressable qui permettra d'adresser le marché de la publicité segmentée. Enfin, TF1 entend aussi renforcer ses positions dans le monde de la production, avec notamment le développement à l'international de Newen. Newen, dans son format actuel, a produit 30% de ses productions à l'international. Quand on prend l'ensemble des acquisitions faites en 2019, c'est 50% de la production qui sera faite à l'international. Enfin, TF1 accélère dans le digital. Il y a eu l'annonce au quatrième trimestre de la régie publicitaire unique Unify Advertising qui permet de créer des synergies au sein du pôle Unify et des synergies qui sont également créées avec le groupe TF1. Passons à Bouygues Télécom. Commençons par les chiffres de croissance des parcs clients mobiles et fixes. En 2019, la bonne dynamique commerciale s'est poursuivie à la fois dans le mobile et à la fois dans le fixe. Le parc forfait mobile hors machine to machine compte maintenant 11,5 millions de clients à fin 2019, dont 653 000 nouveaux clients acquis dans l'année 2019 et 152 000 clients acquis au quatrième trimestre. Dans le fixe, au-delà de la croissance de la base de plus de 200 000 clients sur l'année 2019, on a eu une croissance du FTTH qui se poursuit avec 427 000 nouveaux clients pris sur l'année, dont 142 000 au quatrième trimestre. Un taux de pénétration du FTTH dans la base client de Bouygues Télécom qui s'établit maintenant à 25% alors qu'il n'était que de 16% un an auparavant. En fin d'année, un parc FTTH qui compte 1 million de clients sur un parc total fixe de 3,9 millions de clients. Avec cette base, on peut fabriquer donc un chiffre d'affaires. Bouygues Télécom affiche une forte croissance de son chiffre d'affaires, avec un chiffre d'affaires service qui est en croissance de 8% sur 2019. Cette hausse, elle est portée, comme on peut le voir sur la partie droite de la slide, par l'évolution de la croissance dans le mobile, qui est de 5,5%, et dans le fixe, qui est de 14%. La croissance du chiffre d'affaires service observée sur 2019, les annonces de nos concurrents ne sont pas encore faites, mais probablement, enfin, de façon quasi certaine, la plus forte du marché. Cette très bonne performance, elle reflète d'une part la croissance de la base dont j'ai parlé tout à l'heure, mais elle est également rendue possible par l'augmentation des ABPU, c'est-à-dire la facture payée par le client, à 27 euros par client et par mois, l'ABPU fixe, qui était déjà en hausse sur les 9 premiers mois de l'année 2019, comparé aux 9 premiers mois de l'an dernier, continue d'augmenter. Il augmente de 1,1 euro par rapport au quatrième trimestre 2018. Et puis, une chose tout à fait importante, tout à fait notable, pour la première fois depuis 2011, on a une très bonne nouvelle, on a l'ABPU mobile qui est en croissance comparée par rapport à l'année précédente. Il s'élève en effet à 19,7 euros, en hausse de 50 centimes par rapport au quatrième trimestre de l'année 2018. À l'instar du chiffre d'affaires, quand on prend maintenant les résultats, les autres résultats financiers, ils sont aussi en forte hausse. Le chiffre d'affaires total, donc au-delà du service, il ressort lui à 6,1 milliards en croissance de 13% sur un an, de 12% à périmètre échange constant. Je vous rappelle que Bouygues Télécom a acquis deux sociétés début 2019, Keyyo et Nérim. On a l'EBITDA après loyer qui s'élève à 1,411 milliard. en forte hausse de 147 millions d'euros sur un an et une hausse du taux d'EBITDA de 1 point qui s'établit maintenant à 30,7%. À 540 millions d'euros, le résultat opérationnel courant progresse, lui, de 86 millions d'euros sur un an. On a en revanche un résultat opérationnel, lui, qui est en baisse de 166 millions d'euros pour deux raisons. D'abord, sur le fait qu'en 2019, il y a eu moins de cessions de sites réalisés, et donc moins de plus-value de cessions associées. Et puis un deuxième sujet, qui est le résultat d'un vieux contentieux que nous avions contre l'État français lancé en 2013-2014, qui était la prise en compte d'un produit non courant de 110 millions d'euros que nous avions comptabilisé au troisième trimestre 2018, qui était lié à l'annulation de charges à payer antérieure à 2018 sur les redevances des fréquences 1800. C'est le conflit dont je parlais. Nous avions attaqué l'État sur la tarification proposée à l'époque sur le 1800 MHz. Comme attendu, les investissements bruts s'élèvent à 940 millions d'euros, en baisse de 303 millions d'euros. Et puis pour finir, le cash flow libre, qui était un engagement pris par Bouygues Télécom début 2017, il progresse de 109 millions d'euros pour s'établir à la valeur qui avait été annoncée par Bouygues Télécom début 2017, c'est-à-dire 301 millions d'euros. L'objectif que nous avions donné il y a 3 ans était de 300 millions d'euros. Bon, ces très bons résultats, ils sont la conséquence de la stratégie de différenciation qu'a adoptée Bouygues Télécom depuis quelques années et que je vous propose de parcourir rapidement. On a 4 axes stratégiques qui ont été définis par Bouygues Télécom. Le premier, c'est assurer aux clients une expérience qui soit simple et fluide. Le deuxième, c'est d'offrir une excellente qualité de réseau mobile et fixe. Le troisième, c'est de rendre accessibles ces services dans les zones les moins densément peuplées. Et puis le quatrième, c'est de proposer une gamme de services complète, fixe et mobile aux entreprises pour assurer le développement de Bouygues Télécom sur le marché du B2B. Pour répondre à l'ambition de délivrer une expérience client de qualité, Bouygues Télécom poursuit un programme transversal de petits pas. Ce sont près de 200 chantiers qui ont été lancés au travers de l'entreprise pour réussir à faciliter la vie des clients autant que faire se peut. Dans le domaine du digital, par exemple, s'assurer que l'on réduit le nombre de clics nécessaires pour obtenir une opération. La satisfaction client croît et on a un élément qui permet d'en attester, c'est ce que l'on peut trouver sur le site de l'Arcep qui a été publié début février, où l'Arcep publie le nombre d'alertes reçues par opérateur et par paquet de 100 000 clients. Vous voyez que Bouygues Télécom est l'opérateur qui a le plus petit taux de réclamation qui soit arrivé jusqu'à l'Arcep avec seulement 13 pour 100 000 clients, quand la moyenne est à 16. Et vous avez sur le tableau les contributeurs à cette moyenne. Deuxième sujet dans la simplification de l'usage client et dans le fait de vouloir répondre le plus possible à l'attente de nos clients, quand on reprend la façon dont on a lancé le nouveau modèle de l'offre, nouveau modem pardon, de l'offre Bbox Fibre, les clients demandent une chose assez simple, ils veulent chez eux maintenant avoir du Wi-Fi qui fonctionne le mieux possible. Le parti pris Bouygues Télécom, c'est un truc tout à fait basique, c'est le fait de dire que la propagation du Wi-Fi est meilleure quand la box est verticale qu'horizontale, ce qui est un sens juste physique. Il se trouve qu'on a décidé de la rendre verticale. Jusqu'à maintenant, tout le monde mettait les box relativement à plat. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Amérique du Nord, mais qu'on ne voyait pas en France. Puis deuxième sujet, vous avez tous connecté votre mobile ou votre PC à une box. Avec les systèmes de sécurité, il y a ce qu'on appelle une clé web qui fait entre 24, 25, 26 caractères. C'est un vrai parcours d'explorateur pour y parvenir. Là, l'idée, c'est qu'avec un QR code, on permet au client de pouvoir rentrer directement la clé web pour lui simplifier l'accès. Ce que je disais tout à l'heure, avoir la certitude que l'on est capable d'offrir une expérience simple et fluide. Deuxième sujet, c'est se différencier par la qualité de l'expérience client et le renforcement de l'identité de la marque. La vision de Bouygues Télécom, c'est que la qualité des relations, c'est la clé du bonheur. Bouygues Télécom veut faire grandir les relations humaines. Nous avons lancé en janvier 2020 une nouvelle signature, on est fait pour être ensemble. Cette nouvelle entité a la vocation à rayonner sur l'ensemble des points de contact de la marque. Et il y a une large campagne média qui est en cours, qui a démarré dès le mois de janvier. Et pour ceux qui n'auraient pas regardé TF1 suffisamment souvent, je vous propose de regarder ce que l'on verrait sur les écrans de publicité avec cette campagne de marque.
« know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who's coming home to you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And if I grow old, well, I know I'm gonna be the man who's growing old with you. But I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be.
Les relations humaines sont la première source de notre bonheur. Depuis 1996 chez Bouygues Télécom, nous vous aidons à les faire grandir. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom.
Très beau film réalisé avec, sur l'amitié notamment. La qualité des réseaux est un axe fort pour nous de différenciation. Bouygues Télécom a à nouveau été distingué cette année par l'ARCEP comme le premier opérateur dans les zones rurales. Et le deuxième en moyenne sur l'ensemble du territoire français. On accompagne le développement des usages. La couverture 4G est maintenant de 99% de la population. Le parc de sites mobiles est maintenant de 21 000. Il sera porté à 28 000 sites fin 2023. Et puis de la même façon dans le fixe, le nombre de prises commercialisées est maintenant de 12 millions de prises FTTH qui sont commercialisées depuis fin 2019. Et l'objectif de Bouygues Télécom de prises commercialisées a été relevé de 20 à 22 millions contre 20 millions précédemment à fin 2022. Accélérer dans le B2B, on veut accélérer dans le B2B. Bouygues Télécom a déjà une position importante dans le B2B, dans le marché mobile. Il s'agit de développer une part de marché supérieure dans le marché du fixe entreprise en faisant levier sur les parts de marché mobile que nous avons. Il s'agit de le faire soit sous forme de propositions innovantes qui sont faites en propre par Bouygues Télécom, soit en s'associant sous forme de partenariat. Très clairement, nous visons le marché des TPE et des PME en nous appuyant sur les acquisitions de Keyyo et Nérim et en capitalisant sur l'infrastructure FTTO que nous sommes en train de construire, qui est justement la transition pour mon sujet suivant. Vous savez qu'on a une gestion de nos infrastructures qui est assez pragmatique. On a été les premiers à considérer que les points hauts étaient quelque chose qui pouvait être mutualisé. Et on avait engagé assez tôt des programmes de cession. Bien là, d'un point de vue pragmatique, on a considéré qu'il était nécessaire de fabriquer une infrastructure de fibre optique pour faire face aux grands besoins de data qui vont exister dans le futur. Il s'agit d'une infrastructure qui va relier l'ensemble des points importants du réseau qui va nous permettre d'aller fibrer les sites 5G qui ne le sont pas encore, de façon à permettre de délivrer les services qui seront offerts par la 5G dans le futur. Ça nous permettra également de développer une offre de wholesale fixe, de revente de capacité à des opérateurs alternatifs, et puis une offre de fiber to the office, c'est-à-dire une offre de fibre qui est justement une des demandes du secteur entreprise. Nous sommes actuellement en négociation avec un partenaire pour créer une co-entreprise qui sera chargée de déployer et de commercialiser cette infrastructure en assurant également l'exploitation. Bouygues Télécom sera actionnaire minoritaire de cette co-entreprise. C'est un projet dont le déploiement est évalué à peu près à 1 milliard d'euros qui va durer à peu près 7 ans. Et Bouygues Télécom signera un contrat de long terme avec cette coentreprise. Deuxième sujet, nous souhaitons accélérer la mise à disposition de prises FTTH pour nos clients. Aujourd'hui, Bouygues Télécom accède aux zones moyenne bandance d'Orange au travers soit d'achats de tranches de 5% qu'on a fait en direct, soit au travers par du co-investissement, soit au travers de locations. Eh bien, nous avons un appel d'offres qui est en cours pour choisir un partenaire en vue de création d'une co-entreprise dont Bouygues Télécom serait aussi un actionnaire minoritaire afin de cofinancer l'achat de ces tranches de 5% en zone moyenne bandance, de commercialiser cette infrastructure, d'en assurer aussi l'exploitation. Cette co-entreprise, elle achètera les prises FTTH par tranche de 5%, donc elle ne va pas déployer le réseau, elle va acheter le réseau qui a été déployé par Orange au fur et à mesure de la croissance du nombre de clients commerciaux que Bouygues Télécom récupère. Bouygues Télécom aura accès à cette infrastructure via un contrat de prestation de services à long terme avec cette entreprise. On cédera à la co-entreprise des contrats de co-investissement existants, puisque nous avions déjà acheté par le passé des tranches de 5% à Orange. Et on y mettra également l'ensemble des prises que nous avons louées à Orange à ce jour dans la zone moyenne bandance. Nous vous tiendrons informés notamment du choix des partenaires quand ils seront réalisés. Je passe maintenant la parole à Philippe pour la présentation des comptes.
Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc quelques commentaires supplémentaires sur ces comptes au 31 décembre. Bon, je ne reviendrai pas sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant puisqu'ils vous ont été commentés activité par activité. Les autres produits et charges opérationnelles, on vous l'a dit, sont en retrait important par rapport à 2018, mais c'est 2018 qui était exceptionnellement élevé, en particulier chez Bouygues Télécom, Olivier vient de vous l'expliquer. Un coût de l'endettement financier net légèrement inférieur à celui de 2018, qui est lié au fait que notre endettement moyen sur l'ensemble de l'exercice a été plus faible en 2019 qu'en 2018. Si on passe sur la suite de compte du résultat, des impôts, donc un taux effectif d'imposition à 32%, en augmentation par rapport au taux effectif d'imposition que nous avions en 2018 à 27%. Mais vous rappelez que l'année dernière, le taux était plus bas du fait de deux phénomènes. Le premier, la plus-value réalisée sur la cession de notre participation dans Axione, qui est un taux d'imposition plus faible que le taux normatif, d'une part, et d'autre part, en 2019, la transformation du CICE en baisse de charges sur le personnel. Le CICE était un crédit d'impôt, la baisse de charges est une baisse de charges, et donc évidemment, l'impact comptable n'est pas le même. Donc, si on corrige 2018 de ces deux effets, Axione et un crédit d'impôt retransformé en baisse de charge, on tomberait sur un taux effectif d'impôt à 31%. Donc on est sur le même niveau entre 2018 et 2019 sur notre activité courante. Quote-part du résultat net des co-entreprises et entités associées, donc une augmentation de 48 millions d'euros. Bon, et que sur Alstom, on a le même chiffre sur les deux années, mais on vous l'avait expliqué en septembre, ces deux chiffres n'ont rien à voir l'un avec l'autre, si j'ose dire, puisque le 230 millions de 2018 était notre quote-part de résultats dans les résultats d'Alstom dégagés en 2018. Et ces résultats étaient élevés chez Alstom, en particulier parce qu'il y avait eu un certain nombre de reprises de provisions liées à la cession de l'activité Power à General Electric, phénomène qui ne s'est évidemment pas reproduit en 2019 chez Alstom. Donc Alstom, au titre de ces résultats, nous a apporté, nous, groupe Bouygues, 66 millions de résultats. Mais bien sûr, c'est ajouté à ça la plus-value que nous avons réalisée sur la cession des titres que nous avons fait en 2019 pour 172 millions d'euros. Et donc, vous avez les 238. Le reste de l'augmentation de ce poste est lié à la bonne activité réalisée par TIPCO, la société qui raffine et distribue du bitume en Asie chez Colas, et d'autre part à l'impact sur le résultat des deux cessions qu'a réalisé Bouygues Construction sur sa participation dans les autoroutes de Zagreb, l'aéroport de Zagreb et les autoroutes de la Jamaïque. Et donc au total, un résultat net par du groupe, on l'a vu, de 1,184 milliard. Je n'y reviens pas. En ce qui concerne le bilan, donc vous voyez un actif non courant qui baisse de 640 millions d'euros, des immobilisations corporelles en hausse de 175 millions d'euros, pour l'essentiel Bouygues Télécom pour 132 millions d'euros. Le poste Goodwill a augmenté de 240 millions d'euros. Vous avez là les principaux éléments qui ont affecté ce Goodwill. Une réaffectation de Goodwill sur Alpiq, énergie et services, début 2019, que nous avions pour l'essentiel affecté en fin 2018. Keyyo Nerim, ça ce sont les deux acquisitions de Bouygues Télécom en cours de 2019. Demensen Real One, ce sont les deux acquisitions faites par TF1 au cours de l'exercice 2019. Et puis nous avons sur ce poste un effet de change qui augmente ce poste, et en particulier un effet de change sur le dollar canadien au cours de l'exercice 2019. Et puis une diminution importante, évidemment, sur le poste co-entreprise et entité associée d'un peu plus d'un milliard d'euros, qui correspond pour l'essentiel à l'impact comptable de la cession de nos 13% dans Alstom au cours de l'exercice 2019. Voilà pour ce poste de 640. L'actif courant augmente d'1,147 milliard. Les actifs courants d'exploitation, plus 500 millions, c'est lié à l'augmentation de l'activité. Et puis une trésorerie qui a, elle, augmenté de 646 millions. C'est l'impact de la cession des titres Alstom. Nous n'avons plus d'actifs disponibles à la vente, puisque je vous rappelle que fin 2018, ce poste concernait SMAC, et que la réalisation de la vente de SMAC a été effectuée début 2019. Donc plus d'actifs disponibles à la vente. Si on passe au côté passif, les capitaux propres augmentent de 768 millions d'euros. Donc vous voyez des mouvements assez classiques. Hein. 1,320 milliard, c'est le résultat. Les dividendes, moins 710. Les opérations sur capital, plus 202. Il s'agit à la fois de l'exercice des stock options au titre de l'exercice 2019 et puis surtout de l'opération Bouygues Confiance 11 pour 150 millions d'euros. Bouygues Confiance 11 étant l'opération d'actionnariat salarié que nous avons réalisée fin 2019. Et puis des effets de périmètre pour 44 millions d'euros. Le passif non courant, lui, diminue de 636 millions d'euros. Dans ce poste, l'essentiel, c'est la diminution des dettes financières non courantes pour 800 millions. Ces 800 millions sont composés d'un milliard qui sera l'emprunt obligataire, la souche obligataire que nous rembourserons en juillet 2020, et qui donc comptablement passe de non courant à courant. Et puis une augmentation sur l'exercice 2019 de la dette de Bouygues Télécom, pour environ 200 millions d'euros. Bon, le passif lié aux activités détenues en vue de la vente, bah, c'est la contrepartie passive de SMAC, donc plus d'opérations à la fin de l'année. Et donc au total, un endettement net de 2,2 milliards, Martin Bouygues l'a dit en introduction, en diminution par rapport à l'endettement que nous avions fin 2018. Alors comment cette dette nette a évolué au cours de l'exercice? Bien, nous avons d'abord eu bien sûr l'impact de à la fois la cession de nos 13% dans Alstom et le dividende de 341 millions, donc 1,4 milliard de trésorerie provenant d'Alstom, des acquisitions nettes des cessions pour 180 millions d'euros de trésorerie utilisées. Donc c'est les opérations qu'on a vues tout à l'heure, hein, Keyyo Nerim, Demensen Real One, quelques petites acquisitions chez Colas cette année. 182 millions, c'est la traduction en trésorerie des opérations dont je vous ai parlé, en particulier le Bouygues Confiance 11, les dividendes 710 millions d'euros, et ce qui est très notable, c'est l'apport de trésorerie lié à l'exploitation pour un petit peu moins de 700 millions d'euros, en très forte augmentation par rapport à ce que nous avait rapporté l'exploitation en 2018, puisque vous voyez qu'on a près de 400 millions d'euros d'amélioration de la trésorerie d'exploitation. Alors, cette trésorerie d'exploitation s'analyse de la façon suivante. On vous a remis la capacité d'autofinancement. Alors, vous savez que, compte tenu d'IFRS 16, nous, on préfère parler de la capacité d'autofinancement, y compris les charges de loyer, puisque le miracle de la comptabilité a fait que les locations sont devenues amortissements, donc évidemment, par construction, ça vous augmente très fortement votre capacité d'autofinancement. On considère que ce chiffre n'est pas tellement pertinent. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 2,640 milliards que nous avons générés sur l'exercice 2019 et qui, voyez, est en augmentation de 263 millions par rapport à ce qui avait été généré en 2018, ce qui est évidemment un sujet toujours important puisqu'il est bon de voir se traduire en trésorerie l'amélioration des résultats. Et c'est le cas pour 2019. Des investissements à peu près identiques à ceux de 2018 et totalement en ligne avec ce que nous avions projeté dans nos budgets et dont on avait discuté avec vous. Et puis l'élément marquant de ce quatrième trimestre, l'ensemble de cette année, mais qui s'est marqué au quatrième trimestre, c'est l'amélioration de la variation du besoin en fonds de roulement, puisque là où nous étions à 400 millions l'année dernière de dégradation du besoin en fonds de roulement, que nous étions toujours dans cet ordre de grandeur à fin septembre, quand on vous avait commenté les chiffres de fin septembre, en vous disant qu'il nous paraissait peut-être difficile d'être capable d'améliorer sensiblement cette situation sur le quatrième trimestre, eh bien finalement, l'ensemble des plans d'action menés par tous les métiers, à la fois pour travailler sur les stocks et les comptes clients, ont permis d'améliorer la situation et donc d'avoir une dégradation du besoin en fonds de roulement très inférieure, 176 millions d'euros inférieure à celle que nous avions connue l'année précédente, ce qui fait que amélioration de la capacité d'autofinancement plus une moindre détérioration du besoin en fonds de roulement a évidemment créé ces 400 millions d'euros de trésorerie apportée par l'exploitation, ce qui a été un très beau résultat financier de l'année. Vous avez ensuite, comme traditionnellement, la répartition des investissements par métier. Bon, je dirais qu'il n'y a pas de commentaire particulier à faire. Vous voyez, très peu de variations d'une année sur l'autre et surtout un réalisé totalement en ligne avec le plan. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces comptes au 31 décembre. Comme vous le savez, c'est la dernière fois que je vous présente et que je vous commente les comptes de Bouygues. Donc, je voulais vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté durant ces 12 années. Alors, 12 années, ça veut dire qu'on a discuté de la marche de l'entreprise, de sa stratégie, de ses comptes plus de 48 fois. Donc, c'est un long parcours, mais parcours qui a été, en tout cas pour nous, très enrichissant, parce que par votre écoute attentif, par vos questions, par vos remarques, ça nous a permis de progresser, de faire mieux, je l'espère en tout cas. En tout cas, ça nous a aidé dans notre gestion à prendre en compte un certain nombre de sujets que vous aviez mis en avant et d'essayer de faire que nos actionnaires, à travers votre intermédiaire, soient le plus heureux possible. Voilà, donc de ça, je voulais vous en remercier. Pascal Granger, qui est auprès de moi depuis octobre dernier, a pris connaissance de l'ensemble des sujets du groupe. Alors, il connaissait parfaitement la construction, mais il a pris connaissance de l'ensemble des sujets du groupe et je suis sûr qu'il saura continuer avec vous ce dialogue fructueux pour l'entreprise. Merci beaucoup.
Merci Philippe. Évidemment, un moment un peu d'émotion, un moment important, toujours à la fois pour l'entreprise un passage de relais significatif, puisque c'est un poste très important dans le groupe, mais Pascal Granger, comme l'a dit Philippe, a tout à fait les capacités pour, et puis maintenant, depuis 6 mois, il a bien approfondi sa connaissance de la maison. Philippe va nous quitter à la fin de la semaine. On n'en est pas très loin. Et on ne peut que lui souhaiter une très bonne retraite et des très bonnes conditions de retraite. Je vais maintenant conclure notre présentation en partageant avec vous les ambitions du groupe pour 2020. Dans les marchés porteurs à long terme, nos activités de construction vont renforcer leur portefeuille de solutions bas carbone afin de conserver leur leadership en construction durable. Et elles vont bénéficier de l'ensemble des actions engagées pour améliorer leur profitabilité. Ainsi, la marge opérationnelle courante des activités de construction est attendue en amélioration en 2020 par rapport à 2019. TF1, quant à lui, s'inscrit dans une dynamique de croissance pérenne pour se positionner comme un acteur majeur du marché de la vidéo. Il maintiendra le coût de ses programmes à 985 millions d'euros, un travail qui a été fait par Gilles Pélisson, et continuera de délivrer une marge opérationnelle à deux chiffres en 2020. Enfin, Bouygues Télécom poursuivra sa croissance, fort de sa stratégie de diversification basée sur la qualité de ses réseaux et de l'expérience client, ainsi que de l'attractivité de la marque, comme vous l'a très bien expliqué Olivier Roussin. En 2020, Bouygues Télécom prévoit une croissance de son chiffre d'affaires service d'environ 5% et un cash flow libre supérieur à 300 millions d'euros dans un contexte de croissance des investissements nécessaires à l'augmentation de la capacité mobile en 4G et au début du déploiement de la 5G. Il prévoit d'investir en 2020 entre 1,1 milliard et 1,2 milliard d'euros de capex brut hors fréquence 5G. Bouygues est ainsi bien positionné pour poursuivre sa croissance durable. Il se fixe deux objectifs en 2020. Générer un cash flow libre après BFR d'1 milliard d'euros grâce à la contribution des trois activités. Réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. En effet, j'ai souhaité, il y a plus de 15 ans, que Bouygues se positionne en apporteur de solutions bas carbone pour ses clients. Le groupe dispose aujourd'hui d'un savoir-faire reconnu qui lui confère un leadership dans ces domaines. Nous devons maintenir et accentuer nos efforts pour réduire nos propres émissions. J'ai donc demandé à nos métiers de définir un objectif compatible avec l'accord de Paris qui vise, je vous le rappelle, à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius maximum d'ici à 2100. Et donc d'établir un plan d'action en ce sens cette année. Et donc nous aurons l'occasion de vous refaire le point sur le sujet. Je tiens une nouvelle fois à remercier l'ensemble des collaborateurs du groupe pour leur engagement et leur énergie au service de nos activités et de notre développement. Et bien entendu, avec mes collaborateurs, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Oui. Voilà, par exemple, là.
Merci. Bonjour. Nicolas Côte-Colisson de HSBC. J'ai deux questions sur les télécoms. La première, si vous pouviez nous aider à appréhender l'impact sur l'EBITDA et les CAPEX de la création des deux joint ventures. Est-ce que l'effet est déjà compris dans la guidance que vous avez donnée en termes d'investissement et de free cash flow pour 2020, ou bien c'est surtout à partir de 2021? Et puis aussi sur ce sujet, si vous avez l'intention de mettre des clauses de rachat pour redevenir majoritaire à terme sur ces joint ventures. Et une autre question assez courte sur, aussi sur les télécoms, sur les ABPU dans le fixe qui ont fortement progressé au T4. Je voulais savoir si c'était lié essentiellement à des progressions de prix ou bien s'il y avait des effets plutôt liés à la croissance comme des frais de connexion ou autre. Merci.
Richard Vielle va vous répondre.
Oui, bonjour. Écoutez, en ce qui concerne les deux dossiers de joint venture, ils sont inclus dans les guidelines. Bien sûr, il est aussi possible à la fin de pouvoir changer la situation et se retrouver dans une autre situation que minoritaire, sur le terme. Et enfin, en ce qui concerne le troisième élément que vous avez évoqué concernant la revue des tarifs, ou plutôt du revenu sur le fixe, c'est bien l'augmentation des prix à travers deux choses, les prix intrinsèquement qui évoluent et le mix de nos clients qui change.
Voilà. Monsieur.
Oui, bonjour, Alexandre Yatrides, Odo. J'avais des questions également sur les télécoms et peut-être avoir quelques commentaires sur l'excellente performance dans notamment les mobiles et dans les prix dans les mobiles. Est-ce qu'on assiste à quelque chose de conjoncturel par rapport à un T4 qui aurait été assez calme, ou est-ce qu'on peut considérer qu'on est sur une tendance d'amélioration sur le marché et dans ce marché de Bouygues dans les mobiles. Le deuxième point, j'aimerais avoir quelques commentaires sur ce que la fibre peut et va permettre à Bouygues Télécom, notamment dans les zones moyennement denses et dans les RIP. où j'imagine, mais j'aimerais avoir peut-être un commentaire là-dessus, Bouygues a peut-être une part de marché inférieure à sa part de marché naturelle. Est-ce que, selon vous, c'est une opportunité de potentiellement prendre des parts de marché à moyen terme? Et peut-être avoir un commentaire sur...
On est clairement le Maverick dans le fixe, hein. Clairement.
Oui, et ça donc va, c'est et ça va clairement continuer. Une opportunité et ça, pour et ça va, accélérer et, peut-être vos voilà, prises par marché. Va, or, et, vous n'êtes pas loin de votre objectif de 4 millions d'abonnés, donc peut-être...
L'objectif, non, c'est un premier objectif. Les objectifs se succèdent, les uns après les autres. Voilà. Donc, pour le reste de la réponse, Richard va vous donner les éléments.
Bien. Alors, j'ai que comprendre qu'il fallait 4 ou 5 réponses. Parce que... Donc, dans l'ordre des choses, je crois que vous avez évoqué sur l'évolution sur T4 des revenus mobiles. Donc il y a un événement exceptionnel sur la partie MVNO sur le T4, mais qui avait lieu l'année dernière sur le T3. Mais c'est vrai qu'intrinsèquement, on a une remontée des revenus qui sont liés à plusieurs choses. Bon, ben, bien sûr, les prix du mobile, qui je rappelle, en 2017, on a vécu une forme de crise avec du 5 euros à vie. En 2018, on a vu apparaître plutôt du 10 euros à vie, et quand on regarde fin 19, c'est plutôt du 12 euros à vie qui est en train de se faire sur le marché. Ça, c'est en termes de promotion. Et en termes de revenus, il faut bien prendre en considération aussi que les usages des consommateurs ne cessant de monter, bah, petit à petit, les gens vont sur les forfaits supérieurs. Et de ce fait, bien évidemment, il y a une augmentation du revenu. J'ai répondu à toutes les questions. Il y avait encore autre chose. C'est bon ?
Voilà. Merci. Une autre question, monsieur ? Ouais. Et après, on viendra de ce côté-là.
Bonjour. Joseph Poujal de Kepler Chevreux. J'avais 3 questions. Vous avez beaucoup parlé de réduction de l'empreinte carbone, les solutions bas carbone. Est-ce que vous comptez le faire, développer tout ça en interne, ou est-ce que vous envisageriez des acquisitions de sociétés qui sont à la pointe de, on va dire, de ces solutions? Et peut-être pour faire le lien sur énergie et services, est-ce que vous voyez énergie-service comme quelque chose de très... une sous-activité qui bénéficie énormément de cette transformation ou cette transition énergétique, pardon. Ma deuxième question, vous la voulez maintenant ou j'attends?
Alors, je vais vous dire, sur le bas carbone, je vous l'ai dit dans ma présentation, ça fait 15 ans que j'ai décidé d'orienter stratégiquement Bouygues là-dessus, c'est-à-dire bien avant les autres. Pourquoi? C'est une anecdote que je vais vous raconter. Il y a 15 ans, j'ai eu l'occasion avec mon frère Olivier d'acquérir Château Montrose. Je vous le recommande, excellent Bordeaux, Saint-Estèphe, deuxième cru classé. Et faisant cette acquisition, nous n'avions pas de capacité réelle dans le domaine viticole, on n'en a même aucune, pour tout dire, à part comme consommateur. Et par contre, la propriété méritait franchement d'être remise en état. Et donc, on a fait un programme très important, et je me suis dit, ben après tout, puisqu'on a la chance de faire un magnifique produit et de le vendre à un prix tout à fait correct, il faut, en contrepartie, qu'on n'ait pas un impact négatif sur l'environnement. Et donc, j'ai cherché à mobiliser chez Bouygues des compétences, et je me suis aperçu qu'on avait très peu de compétences dans ce domaine. Et à partir de 2005-2006, j'ai développé une volonté forte que l'on progresse dans tous ces domaines, dans tous les métiers. Pas seulement chez Bouygues Construction, c'est vrai chez Colas, chez TF1, chez Bouygues Télécom, etc. Bouygues Immobilier, bien entendu, également. Et donc, les métiers se sont mis à proposer des solutions innovantes là-dedans. On a envoyé et recruté des gens dans le monde entier. Puis ensuite, on s'est aperçu qu'on arrivait à acquérir un peu de connaissances, mais qu'on avait du mal à la partager. Donc, on a fait un outil particulier, spécifique, de partage de la connaissance pour à la disposition de l'ensemble des collaborateurs du groupe sur tous les thèmes du développement durable. Donc c'est devenu pour nous véritablement prioritaire. On vend des solutions bas carbone chez Bouygues Construction, par exemple, dans le monde entier, où on est interrogé soit sur des bâtiments, soit sur des quartiers, soit même sur des villes, carrément. De la même manière, Colas arrive à répondre à des appels d'offres en se différenciant, en proposant des solutions qui intègrent fortement le problème du développement durable, c'est soit en économisant des moyens de transport, soit en recyclant les matériaux, puisque l'économie circulaire fait partie maintenant de nos axes d'évolution. Donc voilà, est-ce qu'on aura l'occasion ou pas d'acquérir des structures spécialisées dans ces métiers ? Si les besoins chez nous se faisaient apparaître, pourquoi pas ? Mais je dirais qu'on a quand même pas mal de gens qui sont très pointus sur ces sujets-là dans le groupe, et on n'est pas, je ne considère pas qu'on est en retard. Je considère qu'on est sur une dynamique que l'on doit poursuivre, peut-être augmenter, aller plus vite, mais on est très loin d'être en retard là-dessus. Et donc, voilà, il faut qu'on continue à se développer, à chercher. C'est plus facile de faire un bâtiment à énergie positive que de faire un avion à énergie positive, soyons clairs. Hein. C'est plus facile, on a la place dans un bâtiment, il consomme moins d'énergie, etc. Donc on est quand même dans des métiers où l'approche est malgré tout plus facile. Donc on a, si vous allez voir notre siège social de Bouygues Construction Challenger, qui est le siège historique de Bouygues que vous connaissez tous certainement, ben vous verrez qu'on a fait un programme de modernisation il y a quelques années maintenant, qui a servi de modèle pour apprendre à transformer un bâtiment existant en un bâtiment très moderne, qui réduit ses consommations d'énergie, qui produit lui-même sa propre énergie, etc., etc. Et c'est vrai pour l'eau également, etc. Donc on a beaucoup appris, ça nous sert de démonstrateur. Cette expérience nous a servi de démonstrateur pour nos clients et aussi de centre de formation pour nos ingénieurs et nos collaborateurs. Donc ça, je pense qu'il y a véritablement une très forte opportunité pour des groupes comme le nôtre, parce que c'est quand même un savoir-faire qui est assez complexe, qui est nouveau et qui n'est pas à la portée. Ben, les petites entreprises sont moins d'accessibilité à ces technologies-là, parce que c'est un investissement qui coûte de l'argent et qui coûte cher. Énergie et services, la partie énergie et services de Bouygues Construction est évidemment concernée par ça. Évidemment qu'elle les concernait, mais de la même manière que tout le reste du groupe. Vous avez vu la centrale photovoltaïque flottante, ben c'est Bouygues Énergie et Services de Bouygues Construction qui l'a réalisée. On en a fait au Japon, par exemple, on en a fait en Australie, on en fait un peu partout. Et donc, oui, c'est un domaine sur lequel nous souhaitons évidemment progresser et apporter notre contribution à l'édifice, si je puis dire. Les autres parties de votre question, la deuxième ?
Oui, il y en avait une deuxième sur les télécoms. Il y a une quinzaine de jours, Orange et Free parlaient de partage de réseau. Est-ce que c'est quelque chose c'est une idée qui vous inspire ou vous êtes très content avec Saint-Malo, Astérix
J'adore Saint-Malo. pas seulement l'idée. Non, je vais vous dire, soyons clairs, imaginez un réseau entièrement mutualisé dont le propriétaire soit Orange, je comprends que ce soit une idée qui plaise à Orange. Bon, mais ce n'est pas la nôtre. Il y a quelques années, on a poussé pour qu'il y ait 4 réseaux. Quand j'ai essayé d'expliquer que 4 réseaux mobiles, pour faire simple, à 10 milliards, c'était plus compliqué à amortir sur un marché qu'on fixe que 3. On m'a dit, mais non, c'est pas vrai. Bon, très bien. Aujourd'hui, il y en a 4. Nous, on a fait acte de mutualisation avec SFR et une partie de nos réseaux dans les zones peu denses est mutualisée avec SFR. Bon, ça a été un très gros effort financier de notre part. Un très gros effort. On l'a fait. On en est très heureux, très satisfait. Si Orange et Free veulent faire ça dans leur coin, moi, j'y vois aucun inconvénient. Je ne peux même que les inciter à le faire. Ils ont sûrement un intérêt à le faire, et pourquoi pas. Mais moi, je veux dire une chose. De faire un réseau unique, ça serait, à mon avis, une erreur stratégique majeure. Et je vais vous donner la raison. Chacun des 4 opérateurs, Orange, SFR, Bouygues Télécom ou Iliad, on a tous connu des problèmes majeurs techniques. Tous. Alors, d'avoir qu'un seul réseau, ça veut dire que vous mettez tout le monde par terre au même moment. Ça ne me paraît pas nécessaire. Et je pense qu'au contraire, c'est la voie de la sagesse que dans des réseaux mobiles qui, par définition, ont une certaine part de fragilité malgré tout, eh bien, diviser les risques, ça m'apparaît quand même être une très bonne idée. Voilà. Donc je ne crois pas du tout à la mutualisation globale sur un seul réseau. Ça serait un contresens technologique, contresens en matière de sécurité technologique, et je n'en vois pas l'intérêt. Bon, voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, on peut en penser différemment. Et j'ajouterais que quand on mutualise les réseaux, qu'est-ce qu'on mutualise ? On mutualise, en fait, la structure, non pas la structure d'émission, on structure la structure des pylônes. Les pylônes sont communs à Bouygues et à SFR sur un certain nombre de régions françaises, dans une certaine partie de ces régions, mais sur un même pylône Bouygues et SFR, vous avez des équipements de SFR et des équipements de Bouygues Télécom. Je me suis bien fait comprendre ? Voilà. Donc je pense que voilà, que Orange ait envie de se recréer à nouveau le monopole, je comprends parfaitement cette idée, mais il faut comprendre qu'elle ne nous convient pas. Voilà. C'est tout. Oui ?
Et une dernière.
Je vous en prie.
Pas pour vous, mais je ne pouvais pas laisser partir Philippe sans une question.
Oui, la pêche. Oui.
Le milliard d'euros de free cash flow que vous donnez comme objectif pour l'année prochaine, est-ce que vous pouvez nous aider un peu avec les CAPEX ? Parce que pour l'instant, on a la CAPEX des télécoms qui, si je lis bien, va être en hausse. Est-ce que l'ensemble des CAPEX du groupe sont en hausse ? Et du coup, ça veut dire que voilà, c'est que vous êtes très confiant sur d'autres parties de l'équation pour passer de ces 815 à 1 milliard d'euros.
Alors, cher Joseph, comme on l'a dit, j'arrête maintenant parce que j'ai présenté les comptes 2019. Donc c'est une question auxquelles Pascal Granger va répondre parce que l'année prochaine, c'est lui.
Il a déjà la canne à pêche dans la main.
Bonjour à tous. Merci pour cette question, visitage. Oui, effectivement, nous avons bien prévu un cash flow libre de 1 milliard l'année prochaine, avec une augmentation des capex de 1,6 milliard à 1,8 milliard, comme ça a été signalé, en particulier sur les télécoms. Et donc, pour que l'équation fonctionne, c'est effectivement, nous pensons que nos rentabilités vont s'améliorer dans nos activités.
Voilà. Oui, je vous en prie.
Oui, bonjour Éric Lemarié, Brian Garnier. J'avais quatre petites questions, si vous le permettez. La première, sur vos activités de construction à Hong Kong, est-ce que vous avez été impacté en janvier et février par le coronavirus ? Une deuxième question sur l'impact des élections locales en France en 2020. Est-ce que vous pensez que le chiffre d'affaires de Colas pourrait baisser cette année en 2020 à cause de cet effet élection locale ? Une troisième question sur votre guidance sur la marge opérationnelle des activités de construction en 2020. Vous attendez une croissance, une hausse de la marge opérationnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par division pour Colas, construction et l'immobilier ? Et une dernière question, vous avez évoqué Challenger. Est-ce que vous pouvez faire le point sur la cyberattaque à Challenger, s'il vous plaît ? Merci.
Très bien. Sur Hong Kong, ce que je peux vous dire, c'est que notre groupe n'est pratiquement pas présent en Chine continentale. Par contre, comme vous le savez, on a une présence historique forte à Hong Kong. À Hong Kong, nous avons fait le choix d'arrêter totalement l'activité de Hong Kong il y a 15 jours et nous avons repris ce matin. Alors pourquoi nous avons fait le choix d'arrêter l'activité il y a 15 jours ? Parce que nous avons une collaboratrice qui avait été détectée positive et donc, comme il est l'usage, il y a une enquête qui a été faite et l'entreprise a pris la décision, qui a d'ailleurs été très saluée par l'ensemble de nos clients, de tout arrêter pendant 15 jours, histoire de limiter au maximum le risque. Aujourd'hui, je viens de vous le dire, l'activité a redémarré et les nouvelles de la collaboratrice sont des nouvelles tout à fait rassurantes. Donc, de ce point de vue, on est rassuré. Il n'en reste pas moins vrai que cette épidémie a un côté, parfois un peu inquiétant. Et donc, on surveille ça avec beaucoup d'attention et nous ne voulons prendre aucun risque à l'égard, évidemment, de nos collaborateurs. En ce qui concerne la cyberattaque, pour traiter ce deuxième sujet, je peux dire que d'une manière générale, je considère que Bouygues a plutôt été géré avec attention et prudence sur ces sujets-là. Bon, vous allez me dire, manifestement, ça n'a pas été très efficace. Alors oui, ben c'est un peu le problème éternel du jeu du gendarme et du voleur, c'est-à-dire que le voleur, il s'efforce toujours d'être un petit temps d'avance sur le gendarme. Et je vous assure que, par exemple, nous avons dans le groupe deux activités qui sont très critiques, sensibles. C'est Bouygues Télécom. Donc, évidemment, la sensibilité aux cyberattaques en ce qui concerne le réseau proprement parlé est très sensible. Et donc, nous avons des obligations légales très fortes dans ce domaine. On travaille avec l'ANSIS sur ce sujet qui fait des contrôles très stricts. Et donc, nous sommes déjà très sensibilisés à ces problèmes-là depuis longtemps. De la même manière, à TF1, on a le même type de problème avec l'antenne. Nous ne voulons pas que quelqu'un de l'extérieur puisse prendre le contrôle, d'une manière ou d'une autre, de l'antenne. Et donc, il y a tout un tas de dispositifs pour protéger l'entreprise de cette difficulté. Il n'en reste pas moins vrai qu'on a connu les difficultés que vous connaissez. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, d'abord, je voudrais rendre hommage à l'ensemble des collaborateurs du groupe qui, immédiatement, dans tous les métiers, se sont mobilisés et sont arrivés pour prêter main forte aux équipes de Bouygues Construction, car le travail est colossal. On a 3000 serveurs informatiques chez Bouygues Construction tout autour de la planète, et les 3000 serveurs informatiques, il faut un par un les désinfecter, les remonter avec tout le travail que ça peut représenter. Je voudrais rendre hommage aussi à l'ANSIS, qui s'est tout de suite mobilisé et a envoyé chez Bouygues Construction des collaborateurs de très très haut niveau qui nous ont évidemment et qui continuent à nous aider pour trouver des solutions. Il ne reste pas moins vrai que maintenant, ça reste une affaire de police française, police canadienne, puisque le problème a commencé via le Canada, et puis d'autres pays également, puisque tout ça étant connecté, on ne sait pas exactement par où le problème est arrivé. Ce qu'on sait, c'est que c'est un virus d'une nature nouvelle, qui n'était pas connu. Écoutez, on s'est adapté. Je dirais que dans notre malheur, on a une chance, c'est que dans les métiers de la construction, on utilise énormément de moyens informatiques, mais ça n'arrête pas l'usine. Voilà. Malgré l'effondrement du réseau, on a continué à produire et voilà. Donc, mais je dois dire qu'on s'en serait bien passé, mais on a appris quelque chose. Donc on va ensuite faire un travail post-crise d'analyse, savoir comment mieux se préparer à ce genre d'événement, c'est-à-dire mieux se protéger, et puis ensuite, quand la crise arrive, comment réagir encore plus efficacement. Voilà. Sur les problèmes de marge opérationnelle et d'impact des élections locales, je vais peut-être laisser M. Gardès vous répondre plus pratiquement sur le sujet. Frédéric.
Très bien. Alors, en particulier sur la question des élections municipales. Donc, c'est vrai qu'historiquement, on a constaté une contraction du marché les années d'élections municipales. Hein. Il semblerait qu'à cette échéance-ci, cet effet soit un peu moindre, surtout par le fait que plus de marchés sont passés par des intercos. Et du coup, ça dilue un peu l'effet du maire qui ne veut pas avoir de travaux dans sa commune. Mais il y aura un effet, et le syndicat Route de France estime qu'il sera d'à peu près moins 5% sur la partie communale du marché routier français. Voilà.
Sur la partie marge opérationnelle, c'était...
Oui. En fait, vous avez donné une guidance d'amélioration de la marge opérationnelle pour les activités de construction en 2020. Je voulais savoir si vous pouviez donner un peu plus de granularité par division, entre Colas, la construction et l'immobilier peut-être.
Les trois amélioreront, mais on ne donnera pas de guidance par métier.
Voilà. Voilà. Je ne sais pas où Pascal a appris ça. Mais... Ça ressemble à ce que j'ai déjà entendu avant. Oui, monsieur.
Oui, bonjour Thomas Coudry, Baron Garnier. Quelques questions sur les télécoms. Première, je reviens sur le sujet de la guidance. Vous guidez sur un free cash flow supérieur à 300 millions, malgré des augmentations très significatives des capex sur 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le bridge? Qu'est-ce qui va compenser cette augmentation des capex dans le free cash flow? Et en particulier, est-ce qu'il faut s'attendre à un effet très très fort entre la partie capex brute et la partie capex nette sur 2020? En lien avec ça et ces éléments de guidance sur capex et free cash flow sur Bouygues Telecom, il y a pas mal de discussions aujourd'hui autour de Huawei et de l'impact que telle ou telle décision pourrait avoir sur les réseaux de Bouygues Telecom. Si la décision de l'ANSI, du gouvernement, devait aboutir à la nécessité de remplacer un certain nombre d'équipements Huawei sur le réseau Bouygues Telecom, est-ce qu'on serait toujours capable de tenir ces éléments de guidance? Et enfin, la dernière question, elle est sur le projet Astérix. Juste, vous évoquez surtout de construction de prise avec Orange, mais il y a SFR qui déploie aussi sur ces zones-là. Donc, pourquoi vous ne parlez pas d'SFR FTTH? Et puis, de combien de prises, de sessions de prises parlerait-on à l'initiation du projet Astérix? Merci.
Bien. Moi, je vous réponds sur Huawei. Pour le moment, on est dans le flou. Donc, on a fait des demandes d'autorisation. Nous verrons bien. De toutes les manières, l'impact sur le CAPEX de Bouygues Télécom en 2020, il serait extrêmement faible, parce que rien que le temps de gestion administrative des demandes de déploiement fait que, de toutes les manières, la partie CAPEX de ces demandes commencerait en début d'année, au plus tôt, mais plutôt 2021, voire 2022. Non, sur Huawei, moi, je vais vous dire quel est mon sentiment, et il est très simple. D'abord, la position de Bouygues Télécom et du groupe Bouygues sur ce sujet est d'une grande simplicité. Ça ne doit pas induire, à quelque moment que ce soit, la moindre distorsion de concurrence avec des concurrents qui n'ont pas d'équipement Huawei. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que nous avons choisi un équipementier qui s'appelle Huawei en temps et en heure, dans le passé, qui représentait toutes les garanties exigées par l'Europe et la France à travers des lois, des décrets, des approbations, des certificats CE et tout ce qu'on peut imaginer pour acheter ces équipements et les mettre en œuvre. Que l'Europe ou la France change d'idée sur le sujet, c'est tout à fait respectable. Moi, je respecte totalement les fonctions régaliennes des États. Il ne m'appartient pas de les juger. Je ne fais pas de politique. Par contre, à partir du moment où il y a des décisions régaliennes de cette nature, ça a été le cas, par exemple, aux États-Unis, quand M. Trump a dit « j'arrête Huawei, les déploiements Huawei aux États-Unis et les opérateurs de réseaux qui ont du Huawei, eh bien, on va les indemniser et ils déploieront à la place un autre équipement. » Et il a fait un fonds de plus d'un milliard de dollars, d'ailleurs, sur ce thème. Voilà. Moi, je veux dire, la discrimination, si elle devait se faire, ne se ferait dans deux domaines. Un surinvestissement et deux, un planning, un délai. Changer un équipement, ça ne se fait pas dans la journée. Je rappelle que quand vous avez de la 4G Huawei, si vous voulez faire dessus de la 5G Ericsson ou de la 5G Nokia, vous devez d'abord démonter votre 4G Huawei pour la transformer en 4G Ericsson ou Nokia en fonction du constructeur que vous avez choisi pour la 5G. Je vous garantis que ça ne se fait pas dans la journée, cette affaire. Je rappelle que la mutualisation des réseaux Bouygues, Télécom, SFR, 5 ans de travail. 5 ans. Vous voyez bien que c'est extrêmement complexe, long. Il y a un processus administratif très laborieux. Il y a ensuite un processus technique qui va produire les équipements. Ensuite, il y a un processus d'intégration des nouveaux équipements dans un réseau extrêmement complexe. Tout ça, ça prend du temps. Donc voilà, donc sur la situation sur Huawei, pour le moment, on n'a pas de réponse. On a posé un certain nombre de questions. Alors, d'une manière plus générale, ça pose une question simple, c'est quelle est la politique industrielle de l'Europe? Alors, la réponse, elle est simple, il n'y en a pas. Peut-être qu'un jour, on pourrait se poser la question. Parce que les Chinois, manifestement, ils en ont une. Et a priori, on peut penser que le fait d'en avoir une, ça a produit des effets. Il y en avait en Europe. Je vous rappelle que moi, je suis de la génération qui a parfaitement connu ça. Il y avait un plan, une direction du plan, un ministère du plan, et puis il y avait des volontés stratégiques dans des domaines précis. Je pense au nucléaire, je pense à Concorde, je pense à plein de domaines. Et on peut en penser ce qu'on veut, mais ça a quand même globalement pas trop mal fonctionné. Ça a totalement disparu. Il ne faut pas s'étonner que ce soit avec un impact significatif sur l'état de l'industrie en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis ont exactement le même problème que nous. Donc voilà, nous, on est citoyens. On est là pour servir les citoyens et la patrie. On n'est pas là pour faire de la politique, mais on n'est pas là non plus pour payer les pots cassés. Voilà, sur le sujet Huawei. Sur les autres sujets, je vais laisser Richard vous répondre.
Donc, sur ce que vous évoquez sur le programme Astérix, donc, je rappelle que le programme Astérix, ça concerne donc pour chez nous la zone moyennement dense, et c'est avec Orange. D'abord, c'est là où Orange pèse à peu près 80% des opportunités dans la zone moyennement dense. Vis-à-vis d'autres approches, SFR ou même les RIP, dans certains cas, on verra plus tard, on a le temps. Hein. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça se cantonne à Orange, c'était ce qui était le plus facile à mettre en œuvre le plus rapidement possible. Par rapport à ce que vous évoquez sur le cash flow, il y a des contributions qui sont liées à l'EBITDA. Bien sûr, il y a nos CAPEX qu'on estime seront entre 1,1 milliard et 1,2 milliard, mais il faut aussi intégrer en brut. Mais il faut aussi intégrer le fait que des cessions vont être faites dans le cadre du programme Astérix, et ces cessions nous permettraient de générer à peu près 200 millions chez nous. Voilà. Je crois que j'ai répondu aux questions.
Très bien. Une autre question ? Oui, non plus.
Oui, Éric Blain, Finance Connect. Juste en précision d'une part, concernant les JV dans les télécoms, est-ce qu'elles sont incluses dans les CAPEX ? Et si oui, quel est l'ordre d'idée des montants ?
Richard.
Oui, oui, non, elles ne sont pas incluses dans les CAPEX.
Et ça peut être des investissements financiers significatifs ou c'est marginal ?
C'est quelques dizaines de millions d'euros sur 5 ans. Donc c'est totalement marginal par rapport à l'investissement.
Ok. Et juste, d'une manière générale, plus globalement, je connais le groupe depuis assez longtemps et vous faites 1 milliard de free cash. Avec un peu de chance, vous allez vendre peut-être le solde d'Alstom dans quelques temps. Ça fait que le gearing il va tomber à des niveaux très faibles. Quelle est votre opinion dans un monde où au contraire des gens empruntent des milliards à 0%? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réfléchir là-dessus? Puis en complément, dividendes et rachats d'actions, vous aviez fait des opras par le passé, vous avez fait, là c'est un dividende exceptionnel. Qu'est-ce qui vous motive de faire l'un ou l'autre?
Moi, je pense que ma responsabilité en tant que président du groupe, c'est de veiller à la pérennité du groupe. C'est une responsabilité que j'ai vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs, évidemment, mais aussi vis-à-vis des actionnaires. La pérennité du groupe, elle est liée à des stratégies de choix de métier, bien sûr, mais elle est surtout liée aussi à sa stabilité financière. Si je vois, je dis nos amis de Bombardier, parce que je trouve que la famille Bombardier, je la connais depuis 40 ans. On a des relations très amicales. Je trouve quand même qu'ils ont beaucoup, beaucoup souffert. Ils ont fait des choix qui ont été les leurs. Et in fine, tout ça est assez douloureux. Donc je me dis que, voilà, moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que le groupe puisse continuer à croître, à se développer, en essayant d'avoir un risque raisonnable. Sur la dette, bon, je pourrais avoir 10 ou 20 milliards d'euros de dette, puisque il y a manifestement des groupes que ça n'effraie pas. L'avenir des dettes, moi je suis comme vous, je ne connais pas. Je conceptualise mieux ce que je connais plutôt que ce que je ne connais pas. Or, je pense qu'on est quand même dans un monde complexe. Regardez rien que dans cette seule année 2020, début d'année 2020, ce virus asiatique qui est un élément de la perturbation évidente de l'économie mondiale, le rééquilibrage voulu par M. Trump des grands équilibres commerciaux entre les États-Unis et le reste du monde, c'est évidemment là aussi un élément de perturbation de l'économie mondiale non négligeable. Donc voilà, on vit dans un monde compliqué, inquiétant, et personnellement, je ne pousserai pas à un développement massif des dettes. Donc il y a toujours une espèce d'équilibre entre le dividende et puis l'accroissement des dettes. La notation du groupe aussi, c'est un élément important. On a toujours fait en sorte de garder une notation qui soit raisonnable et qui nous permette précisément de financer nos besoins à des coûts attractifs. On a toujours eu à cœur que nos prêteurs, nous puissions les rembourser. Ça fait partie de notre conception des choses. Voilà, pour le reste, donc on a pour le moment fait le distinguo dans le dividende qui va être proposé à l'Assemblée générale. On a fait le distinguo entre la partie exceptionnelle de 0,90 € avec la partie plus ordinaire du dividende d'un 1,70 € que vous connaissez déjà, puisque vous êtes un fidèle de la maison, donc vous le connaissez déjà. À l'avenir, ben, on verra comment on fera évoluer les choses. Je trouve qu'on aborde ce début d'année 2020, puisqu'on est encore en début d'année 2020, d'une manière tout à fait correcte, confiante. Donc, ben, on verra comment les choses se feront. Je vous rappelle que sur Alstom, c'est pas abouti. Hein. Il y a un processus administratif européen particulièrement complexe, avec lequel on ne peut pas dire qu'on a été particulièrement heureux le coup d'avant. Là, on va espérer que les choses s'améliorent, mais c'est quand même très aléatoire, malgré tout. Je rappelle que dans ce processus administratif, l'Europe, qui est un assemblage de gens extrêmement généreux, va poser la question à la planète entière en disant, voilà, on se propose de rassembler Alstom et Bombardier. Est-ce que ça vous fait des petits chagrins? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire plaisir, pour que, voilà, que vous soyez moins malheureux? On va voir les Chinois, on leur dit ça. Je rappelle que quand les Chinois étaient propriétaires du numéro 1 mondial et du numéro 2 mondial et qu'ils ont décidé de les réunir pour faire le super numéro 1 mondial, ils n'ont rien demandé à personne et c'était comme ça. Et puis voilà, bon, ben nous, c'est pas pareil. Donc, on est un peu naïf, un peu beaucoup, mais on fait avec. Voilà, ça répond à votre question.
Juste sur l'aspect technique de votre question entre l'OPRA et le dividende exceptionnel, le conseil d'administration a choisi 0,90 euros par action, ce qui fait à peu près 370 millions d'euros à verser au titre de ce dividende exceptionnel. L'OPRA que nous avions réalisé, dont vous avez parlé, on parlait d'un milliard 4. L'OPRA, c'est une opération longue et complexe. Pour 360 millions d'euros de distribution, on n'allait pas se lancer dans une OPRA. Donc le choix entre les deux, il est lié au montant, simplement. On ne fait pas une OPRA pour 360 millions d'euros de distribution.
Mais il
ne
m'a pas échappé
distribution.
Que c'est un peu à la mode en ce moment.
Mais bon. Rachat d'actions, non. Non, il n'y a pas lieu, là. C'est pas mais... l'objet. Le choix a été, en effet, un dividende exceptionnel de 0,90. Ce qui, quand vous faites les calculs, est à peu près un tiers du profit qu'on a reçu sur Alstom. Donc, qui correspond assez en ligne avec ce que nous avions dit de l'utilisation de ce milliard.
Voilà. Pas d'autres questions? Très bien. Mesdames. Oui, une dernière peut-être.
Merci Nicolas Côte-Colisson. Elle sera courte. Juste sur la construction, si vous pouvez nous donner une idée de l'activité en dehors du Grand Paris en France. Et concernant le Grand Paris, j'ai l'impression qu'on s'oriente plus vers un modèle de conception-construction qui peut être un peu plus cher au démarrage et un peu plus risqué sur le long terme. Je voulais savoir si ça pouvait avoir un impact sur votre objectif de remonter des marges à moyen terme.
Philippe Bonnave va vous répondre avec enthousiasme.
Oui, effectivement, la Société du Grand Paris a décidé d'orienter ses futurs appels d'offres sur des conceptions-constructions qui seront des monstres, hein, puisque c'est des lots qui vont être de plusieurs milliards d'euros. Donc, je ne sais pas si c'est un facteur pour remonter les marges. On vous le dira après. Mais en tout cas, c'est des coûts d'études qui sont extrêmement importants. L'autre question, c'était hors du Grand Paris. Le Grand Paris, ça fait pour nous chaque année 400 millions d'euros d'activité sur une activité France de 5 milliards 4, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas l'activité.
C'est pas négligeable, mais c'est 7 à 8%. Quoi, voilà.
Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Voilà.
Très bien. Mesdames, messieurs, merci.